Les enfants dits précoces.
Les visiteurs du jour.
Ceux que l'on appelait dans le passé surdoués sont aujourd'hui environ 200 000 en France à ne pas trouver leur place au sein d'une classe. Ils s'intéressent à tout, comprennent et apprennent très vite, mais s'ennuient sur les bancs de l'école. Ces enfants nécessitent une attention particulière pour que leur précocité ne devienne pas un handicap. Débat et éclairage au micro de Anne-Claire Bulliard et Hervé Guillemot.
Les visiteurs du jour, demain à partir de 9h40, temps universel.
RFI.
Idée. Une émission proposée par Benoît Ruel. Première partie.
Bonjour ou bonsoir. La morale se veut impérative tandis que l'éthique se présente, nous dit André Comte-Sponville, comme un discours normatif mais non impératif qui répondrait à la question comment vivre. Et c'est sans doute pourquoi hier, disqualifié car confondu avec ce que nous avons l'habitude de désigner à travers le terme morale, l'éthique est aujourd'hui à la mode, comme s'il fallait quand meurent les utopies, quand disparaît la foi en un progrès indéfini de l'homme, construire les nouveaux chemin de la sagesse. Ainsi, avec Gilles Deleuze et Robert Misrahi, on tente d'édifier des éthiques de la joie et du bonheur. Avec Clément Rosset et Marcel Conche, on verse plutôt avec des sagesses tragiques. Avec Michel Foucault ou Pierre Hadot, c'est le modèle gréco-romain qui transparaît. Et avec Hans Jonas, c'est une éthique de la responsabilité qui nous est proposée, très éloignée de l'utopie et de l'eschatologie. Une morale pour la civilisation technologique, la nôtre. Bref, un riche foisonnement où l'appel du transcendant, de l'infini, continue parfois à se faire entendre, par exemple chez Emmanuel Levinas, mais également marqué par ses idées de communication, comme chez Jürgen Habermas, ou de décloisonnement universel, singulièrement à la mode par les temps qui courent. Mais, rappelez Ludwig Wittgenstein, tout ce que le philosophe peut faire, c'est de détruire les idoles, et cela ne signifie pas en forger de nouvelles. Et c'est ce que nous rappelle Frédéric Schifter dans l'essai qu'il vient de publier chez Flammarion sous le titre « Le bluff éthique ». Et avec un bandeau sans doute ajouté par l'éditeur, mais qui dit bien ce qu'il veut dire, « Pour en finir avec les charlatans de la philosophie ». Frédéric Schifter, bonsoir.
Bonsoir.
Philosophe, professeur dans un lycée près de Biarritz, je ne vous ai jamais reçu, et pourtant vous avez écrit plusieurs essais plutôt décapants, déjà cultes, diront certains, des essais concis, comme si vivre était faire bref, et qu'un essai sur ce point devait imiter la vie. Alors par exemple, « Traité du cafard », ou petite philosophie du surf, ou métaphysique du frimeur, ou pensée d'un philosophe sous Prozac, ou bien encore sur le blabla et le chichi des philosophes, sans oublier un guide de bord, l'atrabilaire. Alors, je me rattrape cette semaine en vous recevant, et si j'ai pris soin de citer ces quelques titres, c'est parce qu'ils ne sont pas innocents. En quelques mots, me semble-t-il, vous allez nous le dire, ces intitulés vous positionnent assez bien. L'hebdomadaire Marianne, qui a passé son été à jouer au jeu des sept familles intellectuelles françaises, vous a ainsi classé dans la famille hérétique, en écrivant ceci. Nous sommes dans une société d'assurance qui cherche à se rassurer, mais Frédéric Schifter ne mange pas de ce pain, il s'agit pour lui de redonner le sens, du sens, à l'inexorable sentiment tragique de l'existence. Et à propos de votre essai que Marianne trouve réjouissant, on peut lire ceci. Ayant retenu de la lecture de Clément Rosset que la joie est totalitaire, Frédéric Schifter dénonce les postures et impostures de tous ces professeurs de bien-être qui n'ont pas encore compris qu'en la matière, il n'y a vraiment pas de quoi faire le malin. Il touche juste où cela fait mal lorsqu'il remarque qu'il n'est désormais pas de manifestation de solidarité aux victimes de catastrophes qui ne s'achèvent en grandes fêtes et pique-niques géants. Frédéric Schifter a lu Welbeck et compris la terrible leçon de ses livres. Quel présent, quel avenir pour celui qui n'est ni beau ni blagueur et pas efficace du tout dans son travail. Frédéric Schifter, j'ai trop parlé, mais est-ce que vous vous reconnaissez dans ces lignes ?
Difficilement. difficilement, parce que déjà il y a une phrase qui me gêne un peu, c'est celle qui dit qu'il faudrait redonner du sens ou un sens au sentiment tragique ou au caractère tragique de l'existence. Or précisément, si l'existence est tragique, et elle l'est à mes yeux, cela signifie qu'elle n'a pas de sens. Ce qui fait le tragique de l'existence, c'est son insignifiance absolue, insignifiance dans les deux sens, si j'ose dire, du terme, au sens où on dit de quelque chose que c'est insignifiant, c'est-à-dire que c'est inconsistant, ça n'a pas tellement de solidité, etc. C'est bien le cas de la vie. Et au sens de littéral, d'insignifiant, c'est-à-dire qu'il ne présente pas de signification. Et c'est cela qui constitue le tragique même de l'existence. Et non, je ne suis pas là pour rappeler qu'il faudrait redonner un sens à cela. Je tente de rappeler que effectivement, il n'y a aucun sens à donner. Et c'est justement en cela que réside le bluff éthique, c'est de faire comme si des sens pouvait être donné comme ça à l'existence. Voilà. Et le bluff réside en cela. Et cela ne date pas d'aujourd'hui. C'est toute une longue tradition philosophique qui propose comme ça de donner des sens à l'existence.
Voilà. Oui, alors parlons de votre essai. Vous rappelez d'emblée, vous venez de le dire, que bluffer, ça signifie impressionner, au fond, impressionner l'autre, l'interlocuteur, en lui laissant le sentiment d'entrevoir quelque chose de fondamental à propos de son existence ou de son essence. Enfin, passons. Et vous avez une phrase qui est tout de même très provocatrice, parce que, évidemment, vous êtes provocateur, c'est aussi l'intérêt de votre livre. C'est en cela, d'ailleurs, qu'il est réjouissant. L'éthique, bonne vieille méthode d'abrutissement des foules.
Oui, alors vous avez raison, je joue un peu sur l'ambivalence du terme bluffé. Le bluff, ça signifie le mensonge, tout simplement. Or, si on pouvait donner une rapide définition du mensonge, on pourrait dire que mentir, c'est tenir un discours qui n'est pas conforme à la réalité. Je mens lorsque ce que je dis est sciemment non conforme à la réalité. Mais il y a aussi le verbe bluffer, qui signifie aussi intimider, impressionner, on se laisse bluffer, c'est-à-dire, ah, je suis bluffé par un discours, c'est-à-dire que je n'ai pas compris grand-chose, mais en attendant, je crois avoir quand même entrevu quelque chose qui me semblait important, dont je remettrai à plus tard peut-être la révélation, la signification. En attendant, oui, je suis très impressionné. Et je crois que l'éthique est à la fois bluff, au sens de mensonge, et aussi bluff au sens de discours impressionnant et mais intimidant,
alors,
voilà.
Mais alors justement, est-ce que nos contemporains sont superstitieux ou est-ce qu'ils sont si crédules que ça pour à la fois, au fond, vouloir se faire tromper et se faire bluffer?
Ah mais c'est qu'il y a une volupté à être bluffé. Il y a une volupté dans... vous savez, la Boétie avait écrit un superbe traité, le discours de la servitude volontaire. Il y a la servitude, je dirais, politique, etc. Mais dans la servitude politique ou dans n'importe quel type de servitude, il y a aussi la servitude intellectuelle, la soumission intellectuelle. Et je pense que la soumission intellectuelle peut aussi susciter... Sinon, on ne comprendrait pas pourquoi tant de foules ont pu croire à un moment donné dans des idéologies. Il y a, je pense, effectivement un plaisir à être bluffé, un plaisir pris au mensonge, même si on sait que c'est un mensonge, au fond, on ne veut pas le reconnaître non plus, parce que... Et puis, au fond, oui, il y a peut-être aussi un plaisir à être soumis intellectuellement. C'est bien de suivre, le suivisme intellectuel, ça peut être un plaisir aussi, enfin, que je ne partage pas, inutile de vous dire, mais à la limite, on peut comprendre pourquoi.
Alors, avant d'explorer la nature même de ce bluff, de ce mensonge, enfin, je reprends vos termes, évidemment, j'aurais sans doute dû vous poser la question en premier. Qu'est-ce que l'éthique pour vous? Ou plus exactement, le professeur de philosophie que vous êtes, reconnaît-il en l'éthique une catégorie digne d'être explorée? Ou est-ce que c'est le discours éthique que vous contestez? Parce que c'est pas tout à fait la même chose.
Alors l'éthique, bon, il y a plusieurs discours éthiques.
L'éthique, c'est tout de même séparer le bien du mal, si on pense un peu grossièrement.
Oui, mais le bien du mal, enfin le mal, bon, écoutez, je ne sais pas par quel étalon on peut, ou par quel critère, ou en vertu de quel critère on peut définir le domaine du bien et le domaine du mal. En bon sceptique, je tiens, quant à moi, que voilà des valeurs qui sont tout à fait relatives à des subjectivités, à des circonstances, à des conditions, à des cultures, à des éléments comme ça qui sont tellement variables et aléatoires que le domaine du bien et le domaine du mal ne peuvent jamais être très bien circonscrits de manière aussi claire. Alors l'éthique, du coup, ce sont plutôt en effet des discours qui on peut dire qu'il y a deux types d'éthique, si vous voulez. Il y a l'éthique, je crois que c'est André Comte-Sponville qui tente de qui est lui-même un éthicien qui tente de délimiter ça. Il y a l'éthique au sens classique du terme, c'est-à-dire la vieille morale, si vous voulez, qui est normative, qui nous invite à suivre tel et tel comportement, et puis à la limite, il n'y a pas de question à se poser, parce que c'est comme ça, c'est la tradition, c'est la pesanteur de l'histoire, donc voilà. Et il y a l'éthique qui n'est pas normative, mais qui est prescriptive plutôt, en cela qu'elle donne des conseils, des orientations possibles, et qui laisse le sujet relatif, qui laisserait, je mets ça au conditionnel, qui laisserait le sujet relativement libre de son comportement. C'est-à-dire, la question comment vivre appartiendrait au sujet qui se poserait pour lui-même sa question. Alors, l'éthique, ce serait, moi qui suis un être social, comment puis-je vivre avec les autres, à la fois en fonction de mon bonheur personnel, tout en respectant le bonheur des autres. Voilà. Alors ça, c'est du langage, si je peux me permettre encore un mot, c'est ce que j'appelle, c'est parler le philosophe. Le philosophe, c'est un langage, au fond, c'est une langue, le philosophe. Je ne parle pas de jargon, de spécialiste, je ne parle pas d'une terminologie technique. C'est parler le philosophe. Quand vous entendez quelqu'un parler le philosophe, c'est bluffant. Parce qu'on a l'impression que les notions qu'il utilise, effectivement, coulent. On n'a même pas besoin de les interroger. Ça semble évident et on a l'impression qu'il y a là une naturalité, si vous voulez, du sens. Et alors le bonheur, on a dit le bonheur, on a dit le sujet, on a dit librement. Mais
c'est ce que vous appelez le discours gnangnan.
Le discours gnangnan, oui, le discours gnangnan, c'est autre chose encore. Mais enfin, ça fait aussi partie de l'éthique d'aujourd'hui. On y reviendra, si vous voulez, un peu plus tard. Mais quand je dis parler le philosophe, voilà, c'est utiliser des notions qui sonnent bien, mais qui, sitôt qu'on les interroge et qu'on tente de les définir, on s'aperçoit que ce ne sont que des vents de bouche. Un flatus vocis, c'est-à-dire que finalement on s'aperçoit que ça ne recouvre pas grand-chose. Voilà.
Frédéric Schifter, je vous cite, pour que les humains, parce que à l'instant, enfin il y a quelques secondes, vous avez dit que vous étiez sceptique. Alors effectivement, on va en parler tout au long de cette émission, mais je vous cite, pour que les humains en finissent avec le désir de croire, au fond c'est bien ça, hein, c'est l'antiscepticisme, il faudrait qu'ils ne fussent plus enclins à la crainte comme à l'espérance, ressort affectif même de l'éthique, autant dire qu'ils n'eussent plus la certitude effrayante de mourir. Mais celui qui n'a pas la certitude effrayante de mourir, et qui suit une vie toute tracée sans qu'il n'en sache rien, c'est l'animal. Est-ce qu'au fond, votre rêve ultime, ça ne serait pas de penser que l'homme est un animal ?
C'est un animal malade, disait Schopenhauer. L'animal, effectivement, n'a pas de préoccupation éthique, métaphysique, philosophique, religieuse. L'animal vit dans une sorte de cécité qui est celle de l'instinct. Enfin, cécité, je m'entends, cécité au sens intellectuel, mais qui est peut-être une très grande clairvoyance instinctuelle. Enfin, qu'importe. En tout cas, il n'a pas l'anticipation, cette angoisse de mourir. Dès lors, il est, on peut dire qu'il est heureux dans la mesure où il n'est pas concerné par ces deux ressorts affectifs que sont l'espoir et la crainte.
Oui, mais vous n'y changerez rien, donc l'homme n'est pas un animal.
Mais je ne veux rien changer, je vous rassure tout de suite, je ne veux rien changer, je veux simplement rappeler c'est un peu un travail de généalogie que je me permets de faire dans cet essai, au sens nietzschéen du terme, ou un travail de critique un peu précis, c'est-à-dire que j'essaie de comprendre quels sont les ressorts de l'éthique. Ce ne sont pas des ressorts intellectuels, ce sont des ressorts affectifs. Et les bonimenteurs d'éthique jouent là-dessus. Si vous voulez, ils exploitent le filon du désarroi.
Frédéric Schifter, j'ai lu quelque part que le texte qui vous tombait des mains, alors là encore, on a le provocateur, évidemment, derrière le philosophe, hein. Le texte qui vous tombait des mains est la critique de la raison pure. Mais enfin, de Kant, hein. Mais enfin, c'est tout de même une déclaration sérieuse. Qu'est-ce que vous reprochez aux rationalistes? Que ne voient-ils pas?
Les rationalistes ne voient pas que la raison est une sorte de d'idolâtrie, d'auto-idolâtrie de la pensée. La raison, c'est la pensée qui se voudrait rigoureuse, carrée, logique, etc., etc. Alors que la raison, c'est uniquement une illusion. Enfin, l'humain n'est pas si rationnel que ça, n'est-ce pas? Peut-être le seul domaine où l'humain raisonne. Et encore, il faudrait voir de plus près, c'est quand il calcule, quand il s'adonne aux mathématiques. Mais après, pour ce qui est de la vie, pour ce qui est de la vie de tous les jours, pour ce qui est de la vie amoureuse, de la vie politique, etc., l'homme ne raisonne pas. L'homme agit en fonction d'affects, d'intérêts égoïstes. C'est le désir qui le motive avant tout.
Vous vous rendez compte comme vous allez à contre-courant, parce qu'à un moment, évidemment, vous dénoncez ces marchands d'éthique qui nous invitent à être meilleurs, plus heureux, plus joyeux, plus jouisseurs, plus sages, plus humains. Et puis, vous citez des noms. Et alors, évidemment, là, on va vous tomber sur le paletot, comme on dit. André Comte-Sponville, vous imaginez, La Vertu, Luc Ferry, Albert Jacquard, Mathieu Ricard, Michel Onfray, ils y passent tous.
Oui. Alors, tout à l'heure, je disais sceptique. Ça, c'est le terme, je dirais, littéraire ou philosophique pour peut-être désigner quelque chose de beaucoup plus simple, c'est-à-dire le désir de ne pas être pris pour un imbécile. Si c'est ça, un sceptique, voilà, pour moi, je crois que c'est ça. Je crois que les noms que vous venez de citer, ces personnes-là, nous prennent, je crois, enfin prennent leurs lecteurs pour des imbéciles.
Moi, je croyais au contraire, oui, qu'ils s'adressaient à notre intelligence.
Ils s'adressent à notre désarroi. Alors, attendez, moi, je ne m'érige pas en victime. Je dirais qu'ils tentent d'exploiter un vieux filon, comme le faisaient déjà leurs ancêtres dans l'Antiquité, n'est-ce pas? Ils exploitent le filon du désarroi humain, la peur de mourir, encore une fois, le désir d'être meilleur, si vous voulez, et bien sûr, quels sont les humains qui n'ont pas des blessures narcissiques, qui n'ont pas des complexes d'infériorité, qui ne se sentent pas mal lotis à un degré ou à un autre, pour une raison ou pour une autre? Et l'éthique, leur donne le sentiment qu'ils peuvent être une providence pour eux-mêmes, qu'ils peuvent être les artisans, voire les artistes de leur propre salut. Alors ça, effectivement, ça plaît forcément, c'est une démagogie extraordinaire.
Eh bien, Frédéric Schifter, nous allons maintenant marquer une pause et faire place au journal, mais bien sûr, vous restez avec nous, et dans une dizaine de minutes, vous allez continuer à détruire l'idole contemporaine qui est devenue, selon vous, l'éthique. Je rappelle que vous venez de publier aux éditions Flammarion Le Bluff Éthique. Vous souhaitez nous écrire ou nous faire part de vos critiques, bonnes ou moins bonnes, eh bien, faites-le à l'adresse de l'émission idée@rfi.fr. Ce numéro d'idée est mis en onde par Beru et réalisé par Patricia Lecomte. Place dans quelques secondes au journal, mais restez à l'écoute. Sitôt après, vous retrouvez Frédéric Schifter.